Sieh nicht weg.
Nicht wegsehen.
Ça, c'est la bande-annonce du film Never Look Away, du cinéaste vedette, oui, Florian Henkel van Donnersmaak, hein, qui a gagné hein, en 2007 là, l'Oscar du meilleur film étranger pour son film La vie des autres. Donc, Never Look Away, un film fleuve d'une durée d'un peu plus que 3 heures, hein, librement inspiré de l'artiste réputé Gerard Richter. Peintre figuratif et abstrait, graveur d'images d'après photo. C'est un film, je vais le mentionner, puis on en discutera tout à l'heure, parce qu'à mes côtés se trouve Pierre Archambault, qui a vu, comme moi, les deux films dans le cadre du programme Doom. Pierre, bienvenue.
Oui, bonjour Chantal.
Oui, c'est un film, donc, c'est un film que j'ai lu qui n'a pas été reconnu par l'artiste Gérard Richter, qui est maintenant âgé de 87 ans, alors c'est questionnant. L'histoire prend place dans l'Allemagne de 1937 et s'échelonne sur une période de 30 ans. Alors, on suit à la fois l'histoire de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, hein, l'histoire de l'artiste aussi célèbre qui réussira à passer à l'Ouest juste avant la construction du mur de Berlin. Et à ceci s'ajoutent bien sûr des intrigues secondaires nombreuses avec la famille immédiate du peintre, la belle famille dominée par un fameux gynécologue ex-nazi. Son nom est Karl Sieben. Et c'est tout ça sur fond de toile, sur fond de tragédie. Alors, c'est un film qui fait un survol de l'histoire de l'art de l'époque des deux Allemagnes et qui débute bien sûr avec la visite d'un musée qui expose l'art qualifié de dégénéré. Sur ça, je vais m'arrêter parce que j'ai un commentaire sur le film plutôt positif, hein? Très positif, dont je vais parler un petit peu par la suite. Et ça concerne plus le volet artistique. Je vais laisser Pierre Archambault y aller. Je pense que je viens de voir qu'il a pris plusieurs notes. Merci, Pierre, d'avoir vu ce film. Un programme double qu'on a vu lundi soir et mardi. Hein?
Oui.
Après-midi. Mardi soir.
Donc, c'est ça, le film, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il développe tout le processus de création en partant du contexte social de l'Allemagne sous le régime nazi et l'Allemagne de l'Est sous la domination des Russes communistes. Et c'est pas pour rien que le film débute en 1937, mm-hmm. puisque c'est l'année où on avait fait une exposition des artistes dits dégénérés, entre autres Otto Dix, Max Beckmann, Georges Grass et plusieurs autres. Donc, il y a un guide qui fait une visite au musée de Berlin et qui dénigre allègrement les artistes, leur imputant divers défauts, entre autres qu'ils n'aimaient pas les femmes et ainsi de suite, des mensonges en fait.
Ah oui.
Et un petit groupe de spectateurs, de visiteurs, qui sont là un peu béats à écouter ces paroles, sauf une jeune femme qui est accompagnée d'un enfant qui, elle, semble s'intéresser davantage aux œuvres qu'aux dires du guide. Et en fait, le nom qu'on donne, qui est un faux nom, en fait, Kurt Barner, c'est un nom fictif du peintre Gerhard Richter, sur lequel l'histoire est basée. Alors, il y a près des deux tiers du film qui introduit les divers personnages qui gravitent autour du peintre. Donc, il y a cette jeune femme, jeune et jolie étudiante en costume qui deviendra en fait son amoureuse. Et le père, médecin gynécologue, qui va accoucher sa propre fille en faisant un acte vraiment odieux. Et il y a aussi ce gynécologue-là lui-même qui demande au jeune artiste de peindre son portrait. Il est très imbu de lui-même.
Oui. Très inquiétant et très narcissique.
Très narcissique, effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, il y a beaucoup de photos de journaux, photos d'archives, des souvenirs aussi, qui sont à la source même de l'inspiration de ce que deviendra l'œuvre du jeune peintre.
Oui, oui, tout à fait. Le film démontre toutes les sources d'inspiration première de l'artiste. Ça, c'est bien démontré.
Oui.
Alors,
et dans le dernier tiers, ça raconte l'arrivée à Berlin de Kurt Vernet, qui sera accueilli à l'école d'art par le prof nul autre que Joseph Beuys, qui dans le film porte un nom fictif aussi, et qui deviendra plus ou moins le mentor du jeune étudiant. Et j'ai particulièrement apprécié la traversée des couloirs et des classes dans un long travelling où on voit les étudiants qui reconstituent l'avant-garde des années 50, des artistes tels que Yves Klein, Warhol, Mario Merz, Lucio Fontana, Jackson Pollock. Donc, chaque petit groupe d'artistes représente en fait des artistes importants qui ont marqué cette époque d'après-guerre.
Ça, c'est un moment fort du film.
Oui, oui.
Où on passe à travers l'histoire de l'art et ces 30 années couvertes par le film.
Oui. Oui. Et c'est en fait la période aussi de rattrapage du jeune homme là, qui est passé d'un art socialiste soviétique à la modernité occidentale.
Absolument. Avec son passage à l'Ouest.
Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est l'art d'une...
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'Est, on restait avec le réalisme socialisme pour un bon moment.
C'était très académique et très rigide comme art. Hein.
Oui.
Et c'est lors d'une visite de Joseph Beuys, qui était le prof, à l'atelier du jeune artiste.
Et ça fait plaisir de voir Joseph Beuys dans ce film.
Ouais. Et qui dit à l'étudiant que tout ce qu'il a peint, en fait, qui est plein d'influences de différents artistes, ce n'est pas personnel. Et dans la scène suivante, là, on voit plusieurs toiles blanches dans l'atelier et le jeune artiste assis devant une toile, incapable de tracer un seul geste. Et c'est ce qu'on appelle l'angoisse de la toile vierge. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va découvrir sa propre identité picturale.
Alors, pour toi, est-ce que l'intervention de Joseph Beuys dans ce film-là démontrait de la tyrannie ou plutôt trop de confrontation ou c'était plutôt aidant, son intervention?
Ben non, c'était très stimulant.
Il apportait
des concepts nouveaux de l'art, entre autres que l'art est guérisseur.
Ben oui!
Et d'ailleurs, il porte un geste très...
Je dirais plus libérateur dans son cas.
Libérateur, oui. Ouais. Très provocateur une des scènes, là, un peu plus tard au cours du film. Et pour en revenir au jeune artiste, c'est en regardant un journal, dans la première page montre un général nazi qui a là un déclenchement créatif qui va se produire. Et c'est là que le réalisateur Henkel von Donderschmeck démontre toute son intelligence cinématographique en repiquant les détails de la première partie du film.
Mm-hmm.
Et ça va arriver à un dénouement qui indique que les expériences de vie de l'artiste sont en fait le terreau de l'authenticité de la création.
Ben oui, ça, il partage cette réflexion-là dans le film, ce personnage de Gérard Richard. Et oui, moi, ce que je peux ajouter, c'est pour moi l'aspect le plus intéressant, le plus émouvant du film, c'est l'aboutissement. Alors, on est bien préparé avec ce film à l'événement, là, à l'aboutissement de son processus créatif, on est bien préparé. On voit à quel point il y a toute l'influence de l'histoire, l'influence aussi du parcours de vie de l'artiste, des chocs. Donc, c'est bel et bien ce processus créatif chez l'artiste qui est pour moi le plus émouvant, le plus intéressant. Ainsi que, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est les techniques qu'il développe. Ils sont bien démontrés, les techniques dans le cadre de sa démarche artistique. Alors, on voit vraiment toutes les étapes, les photos qu'il choisit, les photos qu'il ramasse, prises par lui-même, des photos tirées de presse, de livres, des photos peintes, des clichés sur toile, les dessins, l'étape de dessiner les formes après qu'il projette des clichés sur toile. Et vraiment qu'il se sert aussi de ses photos originales pour apposer des couleurs. Et par la suite, c'est son étape finale qui est de passer à créer un flou léger. Tout ça est bien démontré, je trouve, dans le film. On voit toute son expérimentation des différentes techniques, puis qu'il va développer de plus en plus. On aurait souhaité vraiment que le film se poursuive, hein, au-delà des années 60, mais ça s'arrête aux années 60. Et c'est évidemment un artiste qui est bien démontré. C'est toute son inspiration pour le thème de la nostalgie. C'est très fort. Alors moi, c'est venu me chercher énormément, cette thématique très présente chez l'artiste, et la représentation. Effectivement, le pouvoir libérateur de l'art, la pertinence de l'art dans un pays déséquilibré. Alors, vraiment, pour moi, c'est un film que je recommande fortement.
Et dans la dernière partie, c'est en 1966 que Gerhard Richter, alias Kurt Barnett, expose à la galerie Adrian Funk, qui est probablement un faux nom aussi. Et c'est là ça va donner lieu à une entrevue, enfin une conférence de presse. Et c'est là que l'artiste va expliquer sa démarche plus en profondeur.
Oui.
Et en montrant aussi visuellement que c'est un officier allemand qui était photographié sur la page du journal qui a vraiment été l'élément déclencheur et qui donne aussi la finale avec le beau-père qui se trouve très, très mal à l'aise quand il voit le tableau dans l'atelier de l'artiste. Alors, et il dit aussi que un journaliste lui pose la question, est-ce que vous allez continuer dans cet esprit-là? Et là, il répond, non, je vais m'intéresser davantage à la charte des couleurs. Et effectivement, dans la deuxième partie de son œuvre, il va travailler avec des couleurs très, très fortes et des immenses tableaux.
Des œuvres monochromes aussi.
Fait de façon gestuelle. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je souligne que le Musée des beaux-arts de Montréal possède deux tableaux des deux périodes, la période figurative et de la période plus abstraite. Et c'est Richter qui a inventé cette technique qu'on appelle le réalisme flouté.
Le réalisme flouté, hein.
Et qu'il a peint d'une manière photographique et ensuite, en finale, il va passer de larges pinceaux sur la peinture humide pour estomper, en fait, le dessin des images.
Alors, c'est très percutant.
Et je souligne aussi que « Never look away », c'est une phrase qui est dite par la tante.
Mais oui.
De l'artiste quand il était enfant, alors qu'elle jouait du piano complètement dénudée. Et elle dit au jeune garçon qui entre dans la pièce, « Never look away », ne regarde jamais ailleurs quand quelque chose se passe.
Oh mon Dieu, c'est très émouvant. Donc, Pierre, comment expliquer que ce film n'ait pas été reconnu par l'artiste, Gerhard Richter?
Ben, j'imagine qu'il y a des détails qui ne plaisaient pas, qui soient dévoilés au large public, entre autres l'histoire de sa famille et des relations avec le système nazi de son beau-père. Alors, je crois que ce serait la raison première pour laquelle il n'était pas tout à fait en accord avec ce film-là.
Et puis, ben, néanmoins, en tout cas, on n'a pas plus d'informations, mais ça serait bien d'enquêter sur le sujet. Néanmoins, c'est un film, je crois, que tout comme moi, un grand déploiement que tu recommandes, Pierre. Hein,
je ne dirais pas un film à grand déploiement. Là. Il n'y a pas de foule d'avions, de guerre ou de marche. C'est un film intense, un film très dense.
Pour moi, le grand déploiement, c'est tout le volet historique couvert.
Oui, mais c'est
ambitieux.
C'est pas du grand déploiement, ça.
Voilà un point de vue exprimé. Et pour le volet artistique, moi, je le recommande beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux volets, ce qui est bien démontré par le film, à quel point ces deux volets s'interinfluencent. Et comme je mentionnais, ça démontre vraiment toute la pertinence de l'art dans une société aux prises avec d'énormes conflits. Alors, voilà. Vraiment, c'est un film, je crois, qui est au cinéma du parc, qui, j'espère, va se poursuivre un certain temps.
Oui, espérons-le.
Oui, c'est ça. Passons maintenant au deuxième film de notre programme double. Oui, pour les passionnés d'art visuel, ils seront bien servis de se rendre au cinéma du parc pour aller voir aussi Ruben Brand Collector, du cinéaste slovène d'origine hongroise, Milorad Krstić. C'est un film d'animation, un film mouvementé, plein de rebondissements au rythme effréné, à l'esthétique soignée et grandiose, qui sera apprécié, je dirais, par un public de l'adolescence à l'âge adulte, public qui a quelques données, qui possède quelques données sur l'histoire de l'art et qui peut s'amuser à identifier les œuvres qui défilent. Alors, on se retrouve en plein univers créé par des œuvres d'art sélectionnées en vedette notamment 13 œuvres d'art, dont Botticelli, Velázquez, Edward Hopper, Warhol et bien d'autres, qui tourmente hein, un psychothérapeute fortuné qui décide bien sûr de s'approprier ses œuvres et pour ce faire, ben, il forme une équipe de voleurs experts qui parviendra à accomplir leur mission malgré l'intervention d'un policier redoutable. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais faire un petit commentaire par la suite. Je laisse Pierre poursuivre.
Donc, on peut dire Pierre. Que le film, c'est une histoire qui s'inspire des films de gangsters et des James Bond, avec des poursuites en voiture, en hélicoptère, en bateau, des sauts sur les toitures. Le film est très jouissif, d'une part pour le choix des tonalités parfois sombres et parfois lumineuses. Il y a un grand souci esthétique. Qui peut être parfois même troublant d'authenticité dans les décors, les voitures d'époque. C'est dans un style illustratif qui est avec des notes de fantaisie. Et le psychothérapeute qui fait des rêves angoissés à cause de chefs-d'œuvre de différents musées, c'est là que ça déclenche la poursuite et le vol avec une de ses clientes qui est kleptomane et qui va aider à voler les chefs-d'œuvre à travers différents musées, dont La naissance de Vénus de Botticelli, il y a les Elvis Cowboy de Warhol, la pipe de Magritte, l'Olympia de Manet, etc. Donc, cette cliente-là n'est plus ni moins une sorte de James Bond qui a beaucoup d'agilité, qui voltige dans les airs. Et je dois souligner aussi la sonorisation amplifiée qui parfois est un peu exagérée. Parfois, j'ai sursauté sur mon siège. Et les scènes dramatiques, par contre, il y a des musiques qui ajoutent des notes d'humour aussi, très subtiles dans le film. Et à souligner, à grands traits aussi, que les visages des personnages s'inspirent des Demoiselles d'Avignon.
Oui, tout à fait.
De Picasso. Et j'ai remarqué que quand ce sont des personnages méchants ou des patients psychiatriques, ils ont soit plusieurs yeux ou deux nez ou même deux visages. Il y a là peut-être un doute sur les indices, sur les problèmes de comportement de certains personnages. Bref, j'ai vraiment aimé apprécier ce film d'animation d'une grande qualité esthétique, sans mièvrerie, qui était d'ailleurs en nomination au Oscar cette année. Bref, j'ai vraiment apprécié ce film.
Oui. Alors, pour ma part, ben, c'est un film magnifique, absolument beaucoup d'humour, hein, beaucoup d'humour, et qui va vraiment captiver un public de jeunes, hein, parce qu'il y a énormément de rebondissements, et qui fait preuve aussi de travail de recherche solide sur l'histoire de l'art. Alors, c'est très intéressant, c'est même très éducatif aussi. Mon seul bémol, c'est que malheureusement, l'action l'emporte parfois un peu trop sur le volet artistique, très consistant. Il y a beaucoup de temps passé à des poursuites tout au long du film. Alors, il faut aimer ça, il faut être prêt. Mais sinon, c'est une autre recommandation que Pierre Archambault et moi-même faisons. Hein?
Oui.
Ruben Brand Collector.
Oui, oui, oui. C'est un film de divertissant.
Divertissant, merci beaucoup. C'est le mot de la fin qui décrit bien le film. Et bien sûr, Never Look Away, qui est vraiment un film absolument émouvant. Hein? Intéressant, émouvant.
Du grand cinéma.
Du grand cinéma à voir. Pour les passionnés de grandes histoires. Donc, programme double au cinéma du Parc.